Lira dans quelques instants dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Bon, vous connaissez tous ce paradoxe là, de ces deux disciples qui quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs, un village éloigné d'une dizaine de kilomètres, qui sont tout tristes. J'ai remarqué qu'on les représentait avec un dos tout rond, les bras ballants. C'est pas la joie. Alors que Jésus est ressuscité. Ils ne le savent pas. Et ils ont oublié tout ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur vient se joindre à eux en chemin. Il leur explique tout ce qui est dans les Écritures et qui le concerne. Alors explique bien sûr ce qui est dans l'Ancien Testament, bien sûr, puisqu'à l'époque il n'y avait que l'Ancien Testament, voilà. Et bien sûr, à un moment donné, bien sûr, ils vont le presser en disant reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et nous pourrions commencer la lecture au verset 30. Luc 24, verset 30. Luc 24, verset 30, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Je ne sais pas s'ils ont reconnu avec ses mains percées, s'ils ont vu les mains percées du Seigneur, c'est pas écrit. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon !» Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Pourtant, la salutation était merveilleuse. Non la paix. Surtout quand le Seigneur parle, il ne parle pas pour rien dire.
Non.
Il transmettait sa paix. Hein? Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Vous voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit. Et il mangea devant eux. Amen.
Amen.
Amen. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et ce matin, nous pouvons le faire aussi par la foi.
Amen.
Par la foi. Touchez les mains de Jésus-Christ. Or, la main, c'est une des merveilles de la création. Hein? On ne réalise pas toujours, bien sûr. Isaac Newton pouvait dire en l'absence de toute autre preuve, le pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. Le pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. Hébreux 1:10 nous dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'ouvrage des mains du divin potier. Vous le savez. Alors les mains sont au père, au chef de famille.
Ben ouais.
Ah oui.
Très important ça.
Et oui. Étant gamin, moi quand je suis été ma grand-mère, elle me disait jeu de main, jeu de vilain, elle me dit. Et oui. Et puis au 19e siècle, nous savons qu'on venait se donner une poignée de main, c'était un signe de paix, hein, parce qu'on venait sans armes, on venait avec de bonnes intentions. Et on a gardé cette tradition, bien sûr, de se serrer la main. Dans Galates 2:9. Ça, le texte nous révèle l'accord entre Paul, Jacques, Céphas Et Jean, il nous parle de la main d'association. Paul allant vers les païens et les autres allant vers les circoncis. Que de miracles accomplis par les mains de Jésus. En plus de 3 ans de ministère, n'en connaissons qu'une petite partie, l'activité du Seigneur Jésus a été imagée dans Jean 21. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Bon, on pourrait peut-être parler d'hyperbole quand même, mais une hyperbole, vous savez, figure de style, qui consiste à amplifier une caractéristique dans le but de la mettre en valeur. Aujourd'hui, on a tellement d'ordinateurs et de mémoires fantastiques, on peut mémoriser beaucoup de choses. Enfin, ce matin, nous pourrions contempler les mains de Jésus. Elles nous parlent, les mains de Jésus. Vous pourriez voir déjà 3 grandes vérités essentielles. Il y a la crucifixion, l'incarnation d'abord, l'expiation et la résurrection. Hein ? L'incarnation, l'expiation et la résurrection. L'incarnation, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Conçue par le Saint-Esprit, née d'une humble fille de Galilée, le Fils de Dieu s'est vraiment abaissé au plus bas. Il n'a pas vécu dans la richesse. Joseph, son père adoptif, était un homme de bien, mais sans bien matériel. C'était quand même quelqu'un de pauvre. Hein ? Il a vécu, il a travaillé de ses mains, Seigneur, il a fallu qu'elle accomplisse de longues journées de travail, il peut comprendre ceux qui sont fatigués. Il a été fatigué, il a connu cette fatigue. Alors si on regarde ses mains au début de son ministère, sont les mains d'un homme ordinaire, les mains d'un homme du bâtiment, un charpentier. Marquons qu'à l'époque, les charpentiers ne faisaient pas que des charpentes, hein, ils faisaient des joues, ils faisaient des portes, ils faisaient beaucoup de choses. Il arrivait à mon beau-père, qui était artisan couvreur, de me montrer ses mains, qui étaient pleines de cales. Voilà. Ils étaient pleines de cassures. Alors il me disait, mon petit Jonathan, parce qu'il ne m'appelait pas Jonathan, il disait Jonathan, lui, t'as pas de mal, toi, avec ton crayon. T'as pas de mal avec ton crayon. Eh oui, mais Seigneur est venu sur cette terre, mais il a souffert la fatigue, il a fallu qu'il travaille de ses mains. Alors quand ils ont entendu Jésus enseigner dans leur synagogue, bien sûr, les gens de Nazareth qui l'avaient vu grandir et travailler de ses mains, ils n'y comprenaient rien. Dans Marc 6, ils étaient stupéfaits et disaient, mais d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Pour eux, Jésus n'était que le charpentier de Nazareth. Il ne discernait pas, lui, bien sûr, le Fils de Dieu. Mais il y a un passage qui nous interpelle quand même, c'est Marc 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Nous voyons là l'importance capitale de la foi, sans laquelle il ne se passe rien. C'était quand même Jésus, c'était le Fils de Dieu. Vous rendez compte? La puissance qu'il avait. Eh bien, malgré cette puissance, malgré qu'il était le Fils de Dieu, il ne put faire là aucun miracle, parce qu'il n'a pas trouvé la foi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Combien ils ont besoin de la nourrir, cette foi. Hein? Parce que si on ne nourrit pas, elle a dépéri. Hein? Besoin de lire, de nourrir de la parole de Dieu, qui, elle, crée la foi dans nos cœurs. Alors le Seigneur a dit, bien sûr, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, c'est le plein sens du terme. Vous savez tout cela, en mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. La promesse est là. Hein. Alors Jésus dit, en mon en mon nom. Autrement dit, en ma personne. Il n'y a pas que le nom, hein. Le nom et la personne sont liés. Ça veut dire que lorsqu'un frère impose les mains à un malade, un frère en qui Christ demeure, et qui demeure en Christ, ce sont en quelque sorte les mains de Jésus qui se posent sur le malade. Hein, je pense que vous avez réalisé ces choses. Si Christ est en lui, nous sommes en quelque sorte les mains, les pieds de Jésus sur cette terre. Hein, bien sûr. Alors c'est important de réaliser ces choses. Ce sont les mains de Jésus qui se posent sur le malade. Pendant son ministère, les mains de Jésus faisaient du bien et guérissaient tous ceux qui venaient à lui. C'est Luc 4, 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Et il est écrit, il imposa les mains à chacun d'eux. Ça m'interpelle, ça, ce passage. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Christ, la parole, n'a pas fait qu'une prière. Il les a guéris un à un. Nous nous souvenons, bien sûr, de la foi du centenier. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ben, le Seigneur aurait pu. Il en avait la puissance de dire un seul mot et guérissait toute la foule. Il en avait la puissance. Je pense que nous en sommes conscients. Mais il y a eu la part de l'homme. Il a fallu que chacun vienne devant Jésus. Il a fallu que chacun vienne à Jésus pour recevoir la bénédiction, la guérison. C'est important, hein. Remarque que dans les évangiles, les quatre évangiles, on trouve 81 fois dans la bouche de Jésus cette expression « le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme n'a pas eu honte de nous appeler, chacun de nous, nous appelle ses frères. Amen. Pleinement homme, il a souffert terriblement ici-bas. Lui, il est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance, hein. Il lui est même arrivé de pleurer. Alors, cher frère, chère sœur, tu le sais. Si tu souffres, si tu verses des larmes, tu sais que Jésus a le pouvoir de te secourir. Bien sûr, c'est à lui qu'il faut aller. Réfugie-toi dans ses bras. Il posera sa main sur toi et consolera ton cœur et guérira ton corps même. Il en a le pouvoir. Nous avons besoin de venir à ses pieds. De tout notre cœur, le remercier pour son œuvre et lui demander sa grâce. Alors nous qui avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, nous qui avons reçu le Christ, nous avons un grand privilège et aussi une grande responsabilité qui est celui d'amener les pécheurs, d'amener les malheureux au pied de Jésus, afin qu'il les bénisse. Les Nazaréens, eux, ils ne voyaient qu'un charpentier. Aujourd'hui, beaucoup ne voient en Jésus qu'un prophète. Aujourd'hui, une multitude ne sont pas concernés par la mort de la croix, la mort de Jésus. Nous avons besoin de les amener à Christ, et pour ça, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé aussi son Esprit, pour nous donner cette force et ce courage pour témoigner du Seigneur. L'apôtre Jean a pu écrire ce qui était dès le commencement, ça c'est dans sa première épître. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. On ne peut pas garder ces choses pour nous-mêmes. C'est pas possible. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tellement grand, tellement merveilleux. Alors, dans Jean 16, le Seigneur a pu dire que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. C'est une merveille de la grâce, ça vous rendez compte? Alors, l'apôtre pourra dire, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons, par obligation, bien sûr. Il ne peut pas prêcher autre chose que ce qu'il a reçu. Nous prêchons Christ, le centre des Écritures. C'est Pascal qui pouvait dire Jésus que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, les deux comme leur centre. Christ est le centre des Écritures. Ils ont besoin de discerner dans l'Ancien Testament tout ce qui concerne le Seigneur. Le Saint-Esprit veut nous éclairer et nous permettre de le discerner. Alors, pour prendre un exemple de miracle accompli par les mains de Jésus, c'est dans Jean chapitre 9. Jésus n'avait pas peur de salir les mains, il a fait de la boue avec sa salive pour la placer sur les yeux d'un aveugle. Il lui a dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Ah oui, il y avait différentes méthodes, le Seigneur, pour apporter la guérison. Et combien, moi, j'aime ces mots concernant l'obéissance de l'aveugle. Il y a là, se lava et s'en retourna voyant clair. C'est aussi simple que ça. L'obéissance à la parole du Seigneur. Il y a là, se lava et s'en retourna voyant clair. Je crois que si les chrétiens que nous sommes étaient encore plus simples dans leur foi, on est souvent trop compliqués. Plus obéissant à la parole de Dieu, au lieu de la discuter, d'essayer de la contourner, on serait, comme dit Ésaïe 48, leur bien-être serait comme un fleuve et leur bonheur comme les flots de la mer. Leur bien-être serait comme un fleuve et leur bonheur comme les flots de la mer. On pourrait dire que la foi, c'est en quelque sorte la main du cœur. La grâce, elle est dans la main de Dieu, qui nous offre sa grâce, nous offre sa bénédiction, nous offre sa consolation, sa guérison. Et c'est la foi de l'homme qui saisit la grâce. Une foi vivante, elle n'est pas statique, elle est en mouvement, elle avance la main, elle produit des actes. Alors quand on voit Jésus qui tend la main à Pierre, quand sa foi sombre, quand il marche sur les eaux, on peut être sans crainte. Pour faire des actes de foi, il ne nous laissera jamais tomber. Le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Quelquefois, vous savez, on a un acte de foi à faire, puis on est tout hésitant. Quoi. Le Seigneur veut dire, mais engage-toi. Si tu as la conviction intérieure, mais pourquoi tu hésites? Pierre, il n'a pas hésité à enjamber la barque. Nous avons besoin d'avoir cette foi en action, en mouvement, pas une foi statique. Alors, on peut être étonné de la manière de Jésus pour guérir l'aveugle de naissance. On va dire qu'il répare l'aveugle. Jésus, c'est le grand réparateur des brèches. Il saisira la fille de Jaïrus par la main. Il lui dira, enfant, lève-toi. Et il touchera le lépreux, soit pur. Jésus n'a pas peur de la contamination. Il nous faut vivre avec humilité, sans nous conformer au monde, dans la communion du Seigneur, pour pouvoir discerner et donc accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Jésus lui-même ne faisait par ses mains que ce qu'il voyait faire au Père. Jésus lui-même. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Besoin de prier pour cela et d'agir par la foi pour la gloire du Seigneur. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu, car on peut quelquefois s'imaginer faire la volonté de Dieu alors qu'on n'agit que d'une manière charnelle, d'une manière sentimentale, quoi. On n'accomplit pas l'œuvre du Seigneur. Mais bon, le Seigneur nous aide et il use de patience envers tous. Amen. Ce sont les mains du Maître qui lavent les pieds des disciples. Que notre orgueil périsse. Je pense qu'on est toujours un peu trop fier, trop orgueilleux, ouais. Orgueilleux quelquefois. On a besoin de demander au Seigneur de nous aider sur ce chemin. Que notre orgueil périsse devant cette vision du Seigneur prenant la place de l'esclave. Hein? On n'aime pas que les gens nous amènent à nous humilier, mais quelquefois, vous savez, le Seigneur se sert des autres aussi. Nous avons besoin d'humilité pour vraiment servir le Seigneur. Vous savez, un frère, un pasteur, par exemple, qui n'a pas d'humilité, ben, il souffre terriblement dans l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. Il faut beaucoup d'humilité, de renoncement à soi-même. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Sinon, il est blessé tous les jours. Il ne s'en sort pas. Que le Seigneur nous fasse grâce et fasse grâce à tous ceux qui ont des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Excusez-moi. Je vais... Puis n'oublions pas qu'avant qu'il soit livré, les mains de Jésus ont rompu le pain. Et l'ont donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci, mon corps, c'est écrit comme ça, ceci, mon corps. Puis il leur a donné la coupe. Buvez-en tous, ceci, mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Quel moment solennel. J'ai passé une raison toujours, vous savez. Je vous parle par expérience aussi, hein, je ne suis pas meilleur que personne. Je me demande si nous réalisons toujours l'importance de ce moment de la Sainte Cène. Nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Puis il est indispensable d'avoir un peu de temps dans ce moment pour nous examiner nous-mêmes, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, pour... Il me semble hein, que qu'on ne peut pas s'examiner en deux secondes, trois quarts. Il faut se placer devant le Seigneur, demander sa grâce. Alors, pardonnez-moi si je vous dis ça, moi, il me semble que la Sainte Cène est trop vite expédiée dans certaines églises. Moi, j'ai vu certaines assemblées où je suis passé, quoi. Le frère, il trépignait à côté de nous parce que j'étais en train de manger le pain. J'ai dit, attends, j'ai pas fini. Alors j'avais même dit au responsable parce que je voyais qu'il fallait aller vite. Alors j'avais dit, tu vas faire finalement nous donner l'hostie, ça continue, parce que pour aller plus vite. Il a dit, non, rassure-toi. Mais bon, nous avons besoin de réaliser l'importance de ce moment de la sainte.
Amen.
Amen. Nous examiner nous-mêmes avant de prendre le pain. Nous examiner nous-mêmes et prendre le pain et prendre le vin, bien sûr. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est un mémorial d'une telle importance. Vous savez, quand il y a le mémorial dans le monde, on fait une minute de silence, il y a un temps de respect. Combien ? À plus forte raison. Nous avons besoin de respecter ce moment. Que le Seigneur instituait lui-même. Alors une deuxième pensée, c'est l'expiation sur le mont Golgotha. Si nous regardons les mains du Seigneur, elles guérissaient maintenant, elles sont mutilées, elles sont percées. Les mains percées de Jésus nous disent qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous racheter, hein, qu'il n'y avait pas de voie plus facile pour nous offrir le pardon de nos péchés, le salut de nos âmes. Il fallait ses souffrances, il fallait son sang versé. Il fallait sa mort à la croix. Ses mains percées, elles nous montrent l'horreur du péché. L'horreur du péché. Que le Seigneur nous aide. Jésus a volontairement accepté le sacrifice, bien sûr, de la croix. Et c'est pendant qu'on lui enfonce ces horribles clous qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est pendant l'injure qu'il intercède. C'est pendant qu'on le cloue qu'il pardonne. Alors nous, quelquefois, on pardonne, on est tout fiers. Oh, j'ai pardonné! Puis c'est quelquefois, après un temps de révolte, d'échange d'amabilité ou de rancune, quel exemple il nous apporte, Seigneur. Quel exemple! Il pardonne pendant qu'on lui offense. C'est pendant l'offense qu'il faut pardonner. Nous avons besoin de l'esprit de pardon. Parce que nous, quand on est offensé, on se révolte. Que le Seigneur nous aide à avoir cet esprit du pardon. Que le Seigneur nous aide. Or, ses mains percées sont la preuve irréfutable que Dieu nous aime. Qu'il ne nous oubliera jamais. Hein. Elles sont la preuve que c'est sa volonté de nous faire entrer dans notre glorieuse destinée. Vous connaissez bien sûr Ésaïe 49. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle est ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Le Seigneur dit, mais quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, voici je t'ai gravé sur mes mains. C'est un acte d'amour incommensurable. On ne peut mesurer ce qui a été accompli à Golgotha. Le sang du juste a été répandu. Nous avons été lavés. Nous avons été lavés de nos péchés. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Elles sont inscrites déjà sur les mains de Jésus. Elles sont inscrites dans le livre de vie. Amen. Dans la traduction Martin, j'ai vu qu'elle avait traduit « Je t'ai portraite sur mes mains ». Sur les paumes de mes mains. Je t'ai portraite sur les paumes de mes mains. Voilà un verbe qu'on n'utilise pas souvent, nous. Le verbe portraire, autrement dit faire le portrait de quelqu'un. Portraire. C'est peu usité, c'est peu employé. Un troisième point, c'est la résurrection. On pourrait dire tellement de choses, bien sûr, sur cette pensée des mains de Jésus. Les mains de Jésus, elles nous parlent de résurrection. Quand Thomas, ainsi que les disciples, regardent les mains de Jésus, ils ne voient pas les mains d'un mort, ils ne voient pas les mains d'un hologramme, quelque chose fabriqué par un rayon laser. Ben non, pas du tout. Le Seigneur dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau quand vous voyez que je... Et même il mangera avec eux. Il mangera avec eux. Le ressuscité. Alors, il y a un chant qui dit, il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth, il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents, alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi, il est là-haut près du Père, et bientôt il reviendra. Je sais que Jésus prie pour moi.
Amen.
Et vous ?
Amen.
Au Seigneur.
Amen.
Or, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Il est ressuscité pour notre justification. Il est notre victime expiatoire. Sur la croix, il est la victime. Il y a notre Sauveur, notre Seigneur. Le Père voit les marques dans les mains du Fils. Il voit le sang de Christ et il nous fait grâce. Excusez-moi. Si nous prenons l'exemple de la femme adultère hein, sous la loi, la fin du péché, c'était clair, c'était la lapidation. Oui. Sous la grâce, la fin du péché, pour le pécheur repentant, c'est la parole de Jésus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. L'œuvre de salut, elle est parfaite. Christ est ressuscité, l'humble pécheur repentant. Va trouver en Christ le pardon et la force de résister au péché. Quand il regarde les mains de Jésus, les disciples voient les mains d'un vivant, ils voient que son corps ressuscité porte toujours les stigmates de son sacrifice à la croix. Ils réalisent la victoire de Jésus. Ils voient que la mort a été vaincue par le prince de la vie. Alors, à cette question... Angoissante, est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Jésus apporte la réponse à tous ceux qui croient en lui. Je vis et vous vivrez aussi.
Amen.
Je vis et Jonathan vivra aussi.
Amen.
Je ne sais pas si vous faites ça. Personnifier la parole de Dieu. Ben oui. Ben oui, quand vous lisez ce texte, je vis, vous vivrez aussi. Ben oui, c'est les autres, mais c'est moi aussi. Or c'est bon d'y mettre quelquefois son prénom. Hein? C'est bon. N'hésitez pas à le faire quand vous lisez la parole. mettre votre prénom là-dedans. Parce que c'est pour vous. C'est aussi pour vous que c'est écrit. J'avais au téléphone dernièrement un brave frère ancien qui est dans le sud de la France. Il est encore plus âgé que moi, le pauvre. Vous vous rendez compte? Oh, il était malheureux. Il se souvenait de ses péchés passés. Oh, j'ai pu lui dire, mon cher frère, tu as demandé au Seigneur, pardon, sang de Christ, t'as lavé de tes péchés, tu étais purifié, régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu, ton péché n'est plus, il est effacé. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça, pourquoi t'es malheureux? Dieu s'en souvient plus. Dieu ne s'en souvient plus. Ne laisse pas l'adversaire te rendre malheureux. Réjouis-toi. Pourtant, c'est un frère qui a l'expérience. Hein. Vous savez, mais on est des petits bonshommes, on n'est pas Dieu. Hein. Il arrive des moments où l'adversaire vient nous titiller. On peut avoir quelquefois des doutes. C'est pas facile. Que le Seigneur bénisse ce cher frère. Amen. J'ai souvent rapport avec lui, il m'appelle de temps en temps. On peut parler des choses de Dieu avec lui, c'est extraordinaire. Mais bon. Dans Luc 24, 50, c'est écrit « Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les mains et les bénit. Ben, » Jésus vous a conduit à la vieille rue ce matin. Non?
Oui, c'est vrai.
Vous a aidé à trouver l'adresse?
Oui.
Il vous a conduit? Nous sommes assemblés en son nom, en sa personne, en lui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur lève encore les mains, il vous bénit chacun. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Il veut nous encourager, nous consoler, nous guérir, fortifier notre foi, exaucer nos prières. À chaque heure du jour et de la nuit, nous pouvons tendre nos mains vers lui, le toucher par la foi. Il veut nous rassurer. Et on a besoin dans les difficultés. Hein. Oh là là, il veut nous rassurer. Il peut dire encore à chacun de nous, comme à Thomas, il a dit, mais regarde mes mains, ne sois pas incrédule, mais crois. Mais crois.
Amen.
Quelle assurance pour ceux qui sont en Christ, hein, qui sont vraiment les brebis du Seigneur, du bon berger, ceux que sa main conduit. Quelle grâce d'être dans la main percée du Seigneur Jésus. Or, je termine par ce passage de Jean, chapitre 10, verset 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Ah, ça, c'est notre part. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne
Amen.
Ne ravira Jonathan de la main du Seigneur.
Amen.
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 Gloire au Seigneur.
Amen.
Sois béni. À toi la gloire, notre Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, que d'être dans ta main. Quelle assurance. Merci pour ta promesse. Personne ne nous ravira de ta main. Et nous voulons rester dans ta main, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons marcher fidèlement avec toi. C'est pourquoi encore nous te demandons le secours de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de force, remplis-nous d'amour, remplis-nous de sagesse. Dans ces temps troublés, nous soyons réellement de ceux qui brillent dans ce monde de la lumière de Christ. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus.
Amen.